Oui, bonjour, je m'appelle Benoît, je viens de Saint-Olomone et je vous appelle pour le 10 décembre pour manifester contre le projet d'exploitation de carrières à ciel ouvert très proche des habitations pour faire pression sur les pouvoirs publics pour annuler ce projet qui est très polluant. Merci.
Bonjour, Thierry de Tarbes. J'appelle pour réagir sur le reportage concernant la Loire. Originaire de Touraine, je connais bien ce fleuve, mais il y a une petite chose qui m'a interloqué. C'est l'un des intervenants qui conclut que la Loire est le dernier fleuve connaissant de la présence du saumon. Technicien de rivière dans le sud-ouest, je tiens à corriger. L'Adour est un fleuve et a une population endémique de saumon qui fait l'objet d'une protection. Les travaux de restauration de cette population sont visibles sur le site Migradour. Au revoir.
Bonjour, c'est Vincent de Villefranche. Je suis estomaqué, scandalisé. Vous laissez des gens dire du bien de Pierre Rabhi sur votre antenne tellement sérieuse? Cet homme qui se faisait passer pour quelqu'un de bien, qui ne connaît rien à l'agriculture, promoteur d'une méthode ésotérique et religieuse qui disait pas son nom. Un homme misogyne, homophobe, ami des puissants, de l'argent, des amis comme le professeur Joyeux. Lisez là-dessus le système Pierre Rabhi au monde diplomatique, l'enquête de l'AFIS Ardèche. Merci.
Allô, bonjour la Terre. Ici Bernard à Deuil-la-Barre, en proche banlieue parisienne. Il y a à 900 mètres de chez moi, à Épinay-sur-Seine, une unité de restauration rapide avec service au volant. Il y a à 3 km de chez moi, à Saint-Gratien, la même chaîne de restauration rapide avec service au volant ouverte 24 heures sur 24 les 3 derniers jours de la semaine. En France, en 2021, on fait la queue en voiture, moteur allumé, pour acheter de la nourriture. Invraisemblable. J'ai tenté de sensibiliser la Convention citoyenne pour le climat sur le sujet, sans succès. Alors, je vois deux solutions. L'opérateur en question devient vertueux et supprime ce mode de distribution. Deuxième solution, le législateur s'empare du sujet et l'interdit. Il y a du boulot. Allez, bon courage à tous. Merci.
Bonjour. Voilà, j'appelle pour dire que le travail photographique de Yann Arthus Bertrand m'apporte bonheur et admiration. Le plaisir de découvrir des lieux, la diversité, la beauté de notre planète, où par mes possibilités, je n'irai jamais, et où, en plus de ça, je n'ai pas forcément un désir impérieux d'aller. En plus de ça, il y a une belle personne qui, au quotidien, fait que je me questionne de la façon où je peux améliorer telle ou telle habitude pour préserver la biodiversité et avoir un impact le plus moindre possible quant au climat. Donc voilà, je voulais lui dire toute ma reconnaissance. Une bonne journée, au revoir.
Le répondeur de la Terre au carré, 01 56 40 45 45.
Très convoité par les collectionneurs pour leur beauté et leur diversité, les coquilles de mollusques titillent aussi depuis des siècles la curiosité des scientifiques qui s'interrogent sur leur forme si particulière. Eh bien, bonne nouvelle dans le monde des gastéropodes et des bivalves, puisque des chercheurs du laboratoire de géologie de Lyon et de l'Institut de mathématiques d'Oxford ont annoncé il y a quelques jours avoir développé un modèle permettant d'expliquer le secret de la forme en hélico-spirale. Joie au pays des amateurs de mollusques. Nous avons donc sauté sur l'occasion ici à la Terre au Carré pour non seulement saluer cette découverte, mais aussi pour en savoir plus sur ces drôles d'animaux qui peuplent les eaux du globe et qui sont considérés comme des trésors écologiques pour les scientifiques. Et pour en parler, nous sommes en studio avec l'écologue marin Laurent Chauveau. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes directeur de recherche au CNRS, auteur du livre La coquille Saint-Jacques, sentinelle de l'océan, qui était sorti en 2019 aux éditions de l'Équateur. Et puis si tout va bien, nous serons en ligne du Québec dans quelques instants avec Charlotte Carrier-Bello, qui est étudiante en doctorat à l'Université Laval, où elle travaille sur l'effet des activités humaines sur les coquillages bivalves. Voilà, on va donc se retrouver dans un instant pour lever le voile sur finalement le mystère des plateaux de fruits de mer et vous allez répondre aux messages des auditeurs qui nous rejoignent avec les messages et les questions sur la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'application France Inter avec vos notes vocales. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passera au vert à 14h30.
Journée mondiale du climat, youpi.
Eh bien voilà, ce sera tout à l'heure. Voilà pour le sommaire donc de cette émission réalisée par Valérie Ayestara et préparé par Chantal de Montagny avec Vincent Désir à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Dans le secret des mollusques, dossier cet après-midi de la Terre au carré, Laurent Chauveau, sur quoi vous travaillez, vous, exactement, alors?
Ah, moi, je suis spécialisé dans le fonctionnement des écosystèmes côtiers et je me sers des mollusques comme indicateur des dysfonctionnements ou des règles qui régissent le fonctionnement de ces systèmes.
Vous êtes plongeur également?
Je suis plongeur professionnel, ouais, j'ai un diplôme de plongée et ça me permet de assez régulièrement descendre plutôt des laboratoires sous l'eau plutôt que de ramener des animaux au laboratoire.
À toute période de l'année?
À toute période de l'année, à toute latitude, y compris au pôle Nord et au pôle Sud.
Vous revenez d'où, là, exactement?
De Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ouais, qu'est-ce que vous avez fait là-bas, alors? Racontez-nous.
J'ai étudié l'impact du bruit sur le placopectène, qui est le péton géant du Canada, qui va être dans votre assiette à Noël, et puis sur des moules. On en parlera tout à l'heure sur Artica islandica, l'animal le plus vieux de la planète.
Ouais, plus de 500 ans, là, hein, on verra pour les derniers chiffres, en tout cas, qui ont été évalués. Alors, juste avant de commencer, quelques précisions sur les mollusques, parce qu'on ne connaît pas forcément très très bien ces animaux. Ouais. Donc, de quoi on parle exactement, alors?
On parle de l'ensemble des animaux, alors ça va vous paraître, mais qui sont apparus sur Terre en étant plutôt vermiformes, puis qui ont abandonné l'idée...
Vermiformes, ça veut dire
quoi? Oui, ils étaient avec une terre, un aspect de ver.
Ouais,
plutôt allongé. Ouais, donc c'est assez curieux, mais les fauvéates, et il y a deux groupes d'animaux qui sont apparus comme ça sur Terre et qui ont ensuite laissé se développer plutôt que des petites spicules, mais une carapace ou une coquille à l'extérieur. Mmh. Ouais, on laissait apparaître une tête, à l'exception des bivalves. Une tête apparaît et des viscères sont protégés dans une coquille ou un squelette externe qui est lui-même produit par une fine membrane qu'on va appeler un manteau. Ils ont tous ce manteau, tous ces aptitudes à produire plus ou moins fortement un squelette externe qui protégera des viscères.
On les trouve partout dans les eaux de la planète?
Partout.
Eau douce comme eau salée?
Eau douce comme eau salée, avec quelques 100 000 espèces.
Nous avons retrouvé Charlotte Carrier-Bello. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Ravie de vous accueillir. Vous êtes donc à l'Université Laval, donc au Québec. Sur quoi est-ce que vous travaillez exactement, Charlotte Carrier-Bello?
Oui, donc je suis une étudiante au doctorat en biologie marine, donc à l'Université Laval, co-dirigée par un chercheur de l'Université du Québec à Rimouski, donc pas très loin de Québec.
Oui.
Puis je travaille justement sur l'effet des activités humaines et des changements globaux sur les mollusques, mais particulièrement sur les bivalves.
Oui, et quels bivalves en particulier, alors si on précise encore plus les choses?
Si on précise encore plus les choses, je me concentre particulièrement sur la moule bleue, donc Mytilus edulis, qui est une espèce d'intérêt commercial ici dans le Saint-Laurent, mais également sur différents bivalves en eau douce. Donc, je me concentre et en eau douce et en eau salée dans le Saint-Laurent.
Est-ce qu'on pourrait vraiment refaire une définition très précise, bivalve, mollusque, s'il vous plaît, et surtout les erreurs à ne pas commettre, Laurent Chauveau?
Alors, le mollusque englobe les poulpes, les escargots, les bivalves, ce qui va ressembler à une moule, une huître, une coquille Saint-Jacques, et quelques groupes que vous connaissez pas, et dont peut-être si vous allez sur les plages en Bretagne, vous avez vu des animaux avec plusieurs plaques calcaires qui sont les unes sur les autres, qui ressemblent à un escargot, mais au lieu d'avoir une seule coquille, on a plusieurs les unes à côté des autres, ça s'appelle un polyplacophore. Juste avant, des animaux qui sont apparus avec une seule plaque, qui est un monoplacophore. Voilà, donc on regroupe un certain nombre de, une petite dizaine de classes, ouais, qui ont tous cette propriété. Ouais, allez-y.
Donc tous les bivalves sont des mollusques, mais tous les mollusques ne sont pas des bivalves.
Bien sûr, voilà, c'est pas symétrique. Hein. Les mollusques englobent un grand nombre d'animaux très différents d'aspects, dont les emblèmes sont le poulpe, ouais, ou le nautil est un mollusque. Ouais. Les ammonites qui ont disparu de la planète étaient des mollusques. Ouais, et l'escargot, le petit gris qu'on trouve en Charente, ou l'huître sont des mollusques.
Voilà. Et la coquille Saint-Jacques, votre bivalve chéri, oui. Laurent Chauveau, pourquoi cette passion alors pour la coquille?
Cette passion parce que au tout début de cette histoire, ou de mon histoire, il y a une espèce à fort intérêt commercial que les Français vénèrent à Noël. On va le retrouver dans nos assiettes, là. C'est le plat festif des Français à Noël, et on a de façon fortuite transformer cet animal en thermomètre, en animal capable de calculer la rotation de la Terre, de détecter des pollutions, on en parlera.
Ouais.
Les effets des contrastants des IRM sont visibles dans les coquilles Saint-Jacques à 50 mètres de fond en rade de Brest.
D'où ce terme de sentinelle de l'océan, pour reprendre le titre de votre livre. Charlotte Carrier-Bello, vous nous disiez l'intérêt commercial, vous nous parliez de cet intérêt commercial de la moule bleue, parce qu'on la consomme beaucoup au Québec?
Oui, absolument. Ben, je pense que tout le monde au Québec a déjà mangé un moule frite. Donc, oui, c'est effectivement un mets qui est consommé au Québec, mais qui est aussi exporté. Donc, on exporte la moule à plusieurs endroits. Mm-hmm. Puis, donc, non seulement c'est une espèce qui est importante au Québec pour sa valeur monétaire, mais comme bien d'autres espèces de bivalves, c'est une espèce qui est très, très, très importante aussi pour son écosystème.
Oui.
Donc, d'où l'intérêt d'utiliser cette espèce-là.
Et une moule qui est particulièrement sensible à différents stress. Hein. Vous parliez des activités humaines, mais c'est ça que vous essayez de voir, c'est comment ça peut influencer précisément cette moule. Hein.
Oui, exactement. Mais en fait, c'est une espèce qui est assez tolérante. Donc, une chance, parce que c'est une espèce qui est soumise à beaucoup, beaucoup de pression environnementale. Mm-hmm. Mais justement, on essaie de comprendre quels facteurs environnementaux peuvent l'affecter, puis peuvent éventuellement affecter sa distribution
spatio-temporel. Ouais. On y reviendra bien sûr avec vous dans un instant. Laurent Chauveau, vous parliez donc des bivalves. Un autre chercheur s'y intéresse beaucoup, c'est Romain Pett, qui est coordinateur scientifique de l'expédition Under the Pole et qui les étudie particulièrement en Arctique. Il nous explique pourquoi dans cette vidéo de l'expédition, c'était en janvier dernier.
L'Arctique est particulièrement intéressant parce que c'est un écosystème à part. Il joue un rôle très important dans le climat. Et ces bivalves nous intéressent parce que, en fait, on va les utiliser comme traceurs, comme enregistreurs de l'environnement. Donc, si on considère que notre coquillage, il enregistre tout ce qui se passe dans l'environnement, et que sur sa coquille, on peut remonter dans le temps, on a une véritable archive de l'environnement qui est contenue dans la coquille.
Voilà, Laurent Chauveau. Et c'est ça qui vous intéresse, vous. Hein. C'est cet aspect mémoire, archive, enregistrement que ces mollusques sont capables de nous offrir.
Et c'est assez intuitif parce que c'est voilà des animaux qui grandissent par accrétion, c'est-à-dire qui rajoutent une couche ou une petite distance en longueur chaque année. Donc au minimum, vous avez comme sur un arbre la possibilité de voir passer le temps dans son squelette à l'échelle de l'année. Ouais, donc si vous êtes capable d'étudier cet accroissement comme sur un arbre, vous êtes capable de déterminer ce qui était une bonne année et d'une mauvaise. Et puis quand vous rentrez dans la chimie de ce squelette, de ce carbonate de calcium, notamment dans l'isotopie, vous extrayez des informations sur la température, la salinité, la quantité de nourriture qui était disponible, et la vitesse du vent, et l'origine du vent, ou sa direction, ou son azimut en Norvège.
Tout ça dans la coquille, par exemple, d'une Saint-Jacques.
Oui, mais je vais vous donner, lisez ce livre et vous verrez qu'il y a une liste impressionnante d'informations qu'on peut extraire de la chimie et de la structure même d'une coquille Saint-Jacques ou d'un bivalve. Là, il n'y a pas de coquille Saint-Jacques en Arctique. Enfin, il y a un pétoncle polaire, deux pétoncles polaires exactement en Arctique. Et on fait ensuite, c'est assez générique au mollusque et assez générique au coquillage. Le squelette est un livre. Au pire, l'animal fabrique une page par an. Au mieux, comme une coquille Saint-Jacques, il fabrique une page par jour.
Ouais.
Et à la façon de Champollion, on a appris
à déchiffrer
les informations qui étaient écrites dans cette page.
Ouais. Incroyable. Et donc, on peut aller sur le temps pendant lequel a vécu, justement, cette coquille Saint-Jacques, par exemple, ou ce bivalve.
Voilà.
Et
alors, il existe des astuces pour allonger ce temps. Vous récupérez des animaux morts. S'ils ont, en tuilage, vécu la même période que l'animal que vous venez de pêcher, d'accord, vivant. Donc, vous connaissez la date de mort, vous pouvez, par le tuilage, remonter dans le temps, comme on le fait en dendrochronologie avec des arbres.
Hein. Ça, c'est réservé évidemment aux spécialistes comme vous. Chez nous, quand on achète une petite coquille Saint-Jacques, on n'a pas moyen grand public de réussir à avoir 2-3 indices peuvent nous amuser.
Vous pouvez faire ça avec vos enfants, vous voyez des stries dessus, elles sont visibles. En fait, le fait de vous le dire, ça va changer votre acuité visuelle, vous verrez que vous voyez des choses déjà très très étonnantes. Vous voyez arriver l'automne, vous voyez arriver le printemps, le côté explosif dans la reprise de croissance d'une coquille Saint-Jacques. Vous allez voir des stries hivernales, des marques blanches qui marquent très très bien l'hiver.
Donc là, en ce moment, elles ont des marques blanches beaucoup.
Si vous les achetez là, vous verrez que le bord est complètement marron, pas blanc. Et au printemps suivant, il va y avoir, au mois de mai l'année prochaine, une marque blanche qui va apparaître et qui marquera la fin de l'hiver 2021-2022.
Et on peut connaître son âge en regardant, en comptant
ça,
le nombre
très,
de stries.
C'est très, très facile. Alors, c'est plus compliqué sur Arctic Islandica qui vit 500 ans parce que vous avez 500
stries.
Le matériel de laboratoire permet de faire ça sans erreur puisque vous avez la possibilité de faire des images en mosaïquage et puis de revenir sur cette série temporelle assez facilement.
Et avec une bonne loupe, on peut le faire dans son assiette ou pas?
Oui,
pour s'amuser
je vous promets que c'est assez rigolo. Ouais,
on va se marier à Noël.
Voilà, ça va vous changer.
Ça promet autour de la table. Allez, on revient sur les mollusques et puis on va quand même dire quelques mots de cette étude qui a permis de mieux comprendre, en tout cas la forme tout à fait étonnante de ces animaux. Et bien sûr, vos questions sur franceinter.fr.
Tu regarderas plus jamais le ciel, t'écouteras plus jamais le vent, tu diras plus la vie est belle, comme avant, comme avant. T'attends quelqu'un qui viendra plus sortira plus par la fenêtre pour pas réveiller tes parents. Tu pourras plus jamais renaître comme avant, comme avant. T'attends quelqu'un qui viendra plus. Tu peux courir, tu seras déçu. On retrouve pas les années perdues et la vie elle. De temps qui presse, y aura moins de tendresse, de doux regards et de caresses. Mais relax, tout roule, tu verras, ouais, c'est cool. Relax, tout roule, tu verras, la vie sera cool. Comme avant, mais plus tout à fait.
C'est Le Noiseur sur France Inter.
La Terre au carré sur France Inter.
J'ai trouvé ça, et ça c'est un coquillage assez extraordinaire qui n'a rien à faire ici normalement puisque son aire de distribution c'est essentiellement les régions arctiques.
Son nom, Arctica Islandica. Le coquillage ne paye pas de mine et pourtant...
Il est moche, il est pas beau, c'est une grosse palourde. Il est tout simplement très, très, très vieux.
Sa particularité, c'est de vivre plusieurs centaines d'années. Donc le plus vieil animal pour l'instant trouvé avait 507 ans. Mais on peut espérer en trouver des plus vieux.
Le spécimen découvert a peut-être voyagé dans la drague d'un pêcheur avant d'atterrir dans les eaux de l'Aberbenois. Il attend désormais d'être disséqué pour livrer son âge et tous ses secrets.
Voilà, France 3 Iroise avec la découverte d'Alain Lecomte, passionné du monde marin, et Pierre Poitevin, donc spécialiste de ce coquillage plus que centenaire, Arctica Islandica, Laurent Chauveau. Donc là, on est dans les records absolus. Hein.
On est dans le record du règne animal.
Ouais.
Il n'y a pas d'animaux non coloniaux. Il existe des colonies de coraux qui sont capables de vivre plus longtemps que ça, mais qui sont connus pour avoir vécu pendant les 1000 ou 2000 dernières années.
Ouais.
500 ans pour un animal solitaire, ouais, c'est le record de la planète.
507 ans. Donc vous avez calculé les stries, là, c'est ça,
pour oui, essayer de définir bon, alors ça fournit des informations qui sont réellement, réellement étonnantes, notamment à Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment la personne que vous venez d'entendre, qui est Pierre Poitevin,
oui.
Démontre que à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces animaux, à partir de 40 mètres de profondeur, voient et enregistrent la précession de la Lune. C'est-à-dire l'axe de rotation de la Lune varie entre 18 et 28 degrés sur un cycle de 18 ans. Et à Saint-Pierre-et-Miquelon, cette variation qui induit des variations tidales, des variations de la marée, d'accord, induit suffisamment de variations dans l'aptitude qu'a l'eau profonde à faire surface et à produire du phytoplancton pour moduler, parce que la nourriture disponible va moduler la croissance de ces animaux, et on enregistre sur 200 ans les variations de la Lune dans un coquillage à 40 mètres de fond à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et vous prenez ça comme vous voulez, mais il y a une vraie poésie à voir la Lune et l'action de la Lune sur notre planète dans un coquillage qu'on laisse tranquille, parce que finalement celui-là, il n'est pas consommé, pas pêché, et sous son sédiment, attendant 200 ans pour nous donner une information comme ça, je trouve qu'il y a une vraie poésie là-dedans.
Et donc, comment on explique les secrets de sa longévité à cette grosse palourde moche et pourtant très respectable?
Elle est forcément capable de récupérer son ADN et forcément capable de maintenir complètement fonctionnel toutes ses fonctions. Après, le secret de ça, si on le trouve, il est probable qu'on aura des astuces pour vivre un peu plus vieux nous-mêmes.
Ah, ça serait formidable. Charlotte Carrier-Bello, vous, à Québec, donc au bord du Saint-Laurent, vos moules ont quel âge en moyenne? Ça vit combien de temps une moule bleue?
Oh mon Dieu, la vie d'une moule peut varier énormément, mais ça peut atteindre quelques dizaines d'années sans problème en milieu naturel.
Ouais. Et donc, en 10 ans, on a le temps d'emmagasiner plein d'informations utiles pour la science?
Oui, absolument. Puis tout comme certaines espèces de palourdes, on peut effectivement aller regarder les fermes de croissance aussi chez la moule. Mm-hmm. C'est pas quelque chose que je fais personnellement, mais je sais que c'est quelque chose qui est étudié chez la moule bleue dans Saint-Laurent.
Thierry nous demande sur l'application France Inter si les bivalves, qui sont des animaux filtreurs, ont des polluants présents à l'intérieur. Et dans ces cas-là, quelles sont les espèces les plus polluées et quels dangers ils représentent éventuellement pour notre santé à nous? Est-ce que vous pouvez répondre à cela, Charlotte Carrier-Bello?
Oui, absolument. Donc, effectivement, vu que c'est des espèces qui sont, on va parler d'animaux microphages, donc elles vont se nourrir de petites particules qui sont en suspension dans l'eau de mer. Puis, justement, la moule va filtrer l'eau de mer à travers ses branchies et va récupérer toutes les petites particules alimentaires. Puis, donc, c'est une espèce qui peut être un peu sélective, donc elle peut un peu choisir ce qu'elle prend, mais pas tout au complet. Puis, parfois, il peut avoir ce qu'on va appeler des floraisons de certaines algues qui vont produire ce qu'on appelle des toxines. Donc, on a deux toxines, en tout cas, du moins pour le Saint-Laurent, on a deux toxines principales, donc la toxine paralysante, puis on a aussi de l'acide de Moïc. Donc, ça, souvent, c'est des toxines qui vont affecter la moule, mais ça va pas, on va pas avoir de preuves directement chez la moule. Donc, généralement, c'est quelque chose qu'on va consommer par la suite lui-même. Puis, ça peut avoir des répercussions assez graves. Donc, la toxine paralysante peut créer, comme son nom le dit, une paralysie.
Laurent Chauveau, ça filtre, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, parce qu'il y a des études qui ont été menées sur la capacité de filtrage justement des bivalves. Ouais. C'est extrêmement impressionnant quand
même. Non, c'est quelque chose de fabuleux. Hein. Pour réussir à vivre, qu'on ait une moule ou qu'on ait une huître, il faut absolument filtrer des litres d'eau par heure. C'est tellement vrai ce que je viens de vous dire, c'est que vous introduisez une nouvelle espèce, c'est le cas en baie de San Francisco, il y a un exemple fabuleux dans la littérature scientifique, c'est le Potamo corbula, un petit clame chinois qui doit faire 1 cm ou 2 cm, qui a été introduit en baie de San Francisco à la fin des années 80. On est arrivé à une vingtaine de mille d'individus par mètre carré, ouais. Et qui réussissaient à l'époque à contrôler complètement la production primaire de l'écosystème, à le filtrer chaque jour, une à deux fois, c'est-à-dire à amener la quantité de chlorophylle dans l'eau à un niveau tellement relictuel que les autres animaux mouraient de faim. C'est l'équivalent d'avoir un surpâturage par un animal que vous introduisez dans une prairie, et finalement, les animaux autochtones, les animaux qui étaient nés dans ce pâturage finissent par mourir de faim. Quoi.
Donc capacité de filtrage étonnante, mais ce qui fait qu'elles emmagasinent aussi énormément de choses, et aussi des métaux lourds du coup, hein, c'est ça?
Elles peuvent emmagasiner des métaux lourds, et là on vous a parlé de l'acide domoïque, c'est-à-dire les toxines qui sont produites par les phytoplanctons toxiques, les dinoflagellés qui se développent vraisemblablement en relation avec l'addition ou le déversement de nitrates ou de sels nutritifs en abondance dans les systèmes côtiers, et qui stimulent ces algues qui produisent des toxines, d'accord, se retrouvent dans les bivalves qui vous interdisent la consommation des moules en période estivale. Ouais, c'est cette aptitude à concentrer et à filtrer que vous voyez comme une interdiction au bout de la chaîne.
Et petite question intéressée, boire l'eau des huîtres, du coup, c'est pas une bonne idée
même... Non, l'eau des huîtres, c'est aucun problème. Non, okay. Ce sont dans son estomac et dans ses tissus que peuvent apparaître des problèmes. Mais après, la science utilise ça parce que, par exemple, quand vous avez du phytoplancton dans l'eau et qu'il commence à fabriquer des agrégats et qu'il sédimente, ce phytoplancton, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais concentre le barium. L'animal va manger du phytoplancton chargé en barium et vous avez dans la coquille un pic de barium qui apparaît quand vous analysez sa chimie. Et donc, vous savez quand le phytoplancton est apparu parce que l'animal concentre du barium naturellement quand il y a du phytoplancton dans l'eau. Vous voyez, donc, à l'inverse, la filtration et les capacités incroyables de filtration nous permettent d'extraire des informations de la structure de cette coquille.
Alors, il y a d'autres questions
Gérard,
le stress.
Gérard demande s'il est exact que les éoliennes offshore font fuir les bivalves, Laurent Chauveau.
Font fuir les bivalves?
Oui.
Alors, fuir, ça, c'est pas possible, parce que les bivalves ont perdu, à quelques exceptions près, Lima et la coquille Saint-Jacques ont perdu l'aptitude à se déplacer. En prenant une structure avec deux coquilles, ils ont perdu le déplacement du poulpe, perdu le déplacement des escargots.
Donc, ça bouge plus du tout.
C'est pratiquement pas une coquille Saint-Jacques, c'est un mythe, ça nage très très peu et dans sa vie ça fera une centaine de mètres au pire. Ouais. Donc oui, l'histoire de fuir ne va pas. Maintenant, est-ce que le son a un impact sur les mollusques? Alors là, voilà un pan entier de la recherche qui est en train de se développer. On avait oublié qu'il y avait du bruit sous l'eau, on avait oublié que les bateaux, que l'installation des éoliennes offshore pouvaient avoir des niveaux sonores capables de perturber des larves notamment et des adultes de coquilles Saint-Jacques. Les tests faits en baie de Saint-Brieuc avec les pêcheurs de la baie de Saint-Brieuc et avec la société Iberola au sein du CNRS et avec les closeries du Tindouf, que vous connaissez peut-être en rade de Brest, montrent que vous ne pouvez pas tuer une coquille Saint-Jacques en faisant du bruit, même à hauteur de 180 décibels, ce qui commence à être quelque chose d'impressionnant. Par contre, vous avez la possibilité de moduler des paramètres biologiques dans la ville arvère. Et donc, c'est vrai chez la moule, on l'a montré à Rimouski, c'est vrai chez la coquille Saint-Jacques, vrai chez la praire, vous arrivez à changer les taux de métamorphose, les moments où l'animal va se métamorphoser. Ça, c'est influencé par le bruit, des bateaux, ou les bruits des hommes, en général, pas que les éoliennes. Les bruits des hommes vont changer la vie des mollusques et les taux de métamorphose, des choses subtiles. Et je ne peux pas vous répondre clairement si c'est une catastrophe ou une bonne idée. Vraiment, on est au balbutiement de cette discipline qui est l'éco-acoustique ou l'écologie acoustique.
On y en reparlera tout à l'heure, parce que vous avez mis même des haut-parleurs dans l'eau pour entendre justement ces mollusques. Et c'est aussi l'objet de vos travaux, Charlotte Carrier-Bello, pour étudier tous les stress liés aux activités humaines. On se retrouve dans un instant. Beaucoup de messages pour vous de la part des auditeurs sur le site de l'émission.
France Inter. La Terre au carré.
Et à 14h31, Camille Passauvert.
Et il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, 8 décembre, c'est la journée mondiale du climat. Ça tourne absolument partout. Les réseaux sociaux sont en boucle. Hashtag climat par-ci, des messages de tous les politiques par-là, c'est la folie. Bon, non, en vrai, tout le monde s'en cogne. On est toujours sur le Koh-Lanta d'hier soir et celui dont on prononce beaucoup trop le nom. Et dans la rue, c'est pareil.
Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du climat ?
Non,
je ne savais pas.
Je n'étais pas au courant. Pourtant, je suis sensible à l'écologie.
Non, je ne savais pas.
Qu'est-ce que ça te fait ?
Rien.
Allez, bim, cadeau. Cela dit, il y en a d'autres à qui ça fait pire que rien. Ça fait...
Peur. Cette problématique qui est très anxiogène pour moi. J'ai vraiment peur pour la suite. Je ne suis pas très optimiste.
Mais dis donc, en voilà une bonne journée mondiale du climat. Journée dont le but est, pour info, de rappeler la menace du réchauffement climatique et la nécessité d'agir pour en limiter les effets. Et il y en a qui l'ont promis toute cette année encore, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas besoin d'en dire un seul mot aujourd'hui. Ce sont les dirigeants des pays les plus pollueurs ou les plus influents. Alors comme on s'approche de la fin de l'année, j'ai fait un petit best-of chronologique. Janvier, le nouveau président américain Joe Biden signe le décret qui réintègre les États-Unis à l'accord de Paris.
Il s'agit maintenant de répondre à cette menace maximale avec laquelle nous vivons, le réchauffement climatique, de façon plus urgente. Nous avons déjà attendu trop longtemps pour faire face à cette crise climatique. Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps, il est temps d'agir.
Et ça me fait, penser à quelqu'un, ça.
Nous allons agir.
Ah, sauf que ça, c'était il y a plus de deux ans, en août 2019. Cette année, dès janvier, avant le One Planet Summit, le président de la République, Emmanuel Macron, déclarait vouloir...
bâtir des coalitions d'actions concrètes pour agir.
Et le 1er novembre dernier, à la tribune de la COP26...
La clé de notre action collective est que, dans les jours qui viennent, avant la clôture de cette COP, il puisse y avoir suffisamment d'engagement pour revenir au 1,5 degré, ou plutôt à des stratégies nationales qui crédibilisent cet objectif, en particulier en accélérant nos stratégies d'ici 2030.
Accélérer. Le rythme doit s'accélérer, disait aussi la désormais ex-chancelière allemande Angela Merkel en juillet dernier, pendant que la Chine en septembre et son président Xi Jinping promettait de favoriser des énergies vertes et peu carbonées et s'engager à ne pas construire de nouvelles centrales à charbon à l'étranger, un an après avoir annoncé la neutralité carbone pour 2060, et pendant que Modi, cette fois le premier ministre indien, lui, on révise nos langues étrangères, il affirmait que l'Inde, que la neutralité carbone serait atteinte en 2070. Bref, de belles promesses avant, pourtant, souvenez-vous, une conclusion, donc fin novembre, mi-novembre, en mode douche froide.
I apologize for the way this process has unfolded and I'm deeply sorry.
Les excuses du président de la COP26 parce que l'issue n'était pas à la hauteur des ambitions affichées. Pas de quoi donc nous rassurer, tout ce blabla, comme dirait une certaine Greta, pour cette journée mondiale du climat. Encore moins quand des gens pensent encore ceci. Écoutez bien, c'était ce matin en plein Paris.
Je trouve qu'on est un peu prétentieux de vouloir vraiment dire de façon catégorique qu'on réchauffe ou on refroidit la planète par notre action, sans avoir vraiment toutes les données.
Vous ne croyez pas dans ce que dit la science ?
Si, la science justement a toujours été très... La vraie science a toujours été très intelligente et très prudente. Mais l'effet d'asséner et de nous culpabiliser, alors qu'on est des petits citoyens, qu'on essaie de faire tout bien, je trouve qu'il y a quelque chose qui est un petit peu oppressant. Je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair. C'est-à-dire prendre des hypothèses pour des réalités, je trouve que c'est un petit peu exagéré.
Alors j'ai donc invité la dame à regarder par exemple les rapports du GIEC, la vraie science, qui prouve que oui, je le rappelle, les activités humaines sont bien à l'origine du réchauffement beaucoup trop rapide. C'est lui hein, qui accélère le réchauffement pendant qu'on lui dit donc qu'il faut accélérer et qu'on va agir. Mais bonne journée du climat
oui,
quand même, hein,
c'est
avec une dernière note positive, allez.
Ah bah c'est la journée du climat, allez, c'est parti, on va essayer de faire quelque chose de bien aujourd'hui justement pour la planète.
Wow.
Et même si c'est demain, allez, bah, ce
gros
sera
enthousiasme.
Bien quand même.
Merci beaucoup Camille Cronier pour ces réjouissances. On peut réécouter bien sûr votre chronique sur franceinter.fr.
Charlotte Carrier-Bello, vous qui êtes au Québec, il paraît que, c'est avéré, le Canada est pas un pays très vertueux, on va dire, en termes de réchauffement climatique et d'émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que là-bas, il y a aussi des discours, Justin Trudeau qui dit on va agir, et puis rien qui est fait, voire tout est fait à l'envers?
Oui, effectivement, c'est sûr qu'on a des discours comme beaucoup de dans la politique. Il y a beaucoup de discours qui ont été effectués à cet égard. Certaines mesures ont été effectuées, mais à échelle beaucoup plus locale. Mais c'est sûr qu'au niveau du Canada, comme beaucoup de pays, on a un long chemin à faire pour réaliser nos objectifs.
Laurent Chauveau, le réchauffement climatique, ça se voit dans vos coquilles Saint-Jacques ou pas?
Ça se voit dans les coquilles Saint-Jacques, ça se voit en Arctique. Si on revient à ce que disait Romain tout à l'heure, une petite astarte, un animal qui doit faire 5 cm de diamètre, qui vit à 600 mètres de fond en baie de Baffin, montre que les conditions de glace ont changé. Les conditions de glace changeant, les conditions de lumière changent dans l'eau, et les conditions de lumière changeant, c'est toujours la même règle en milieu marin. La quantité de phytoplancton change et ces animaux ont tendance à grandir plus vite qu'il y a 30 ans ou 40 ans parce que ils reçoivent du phytoplancton en plus grande quantité. Il y a un truc qui est très très vicieux, c'est que ce phytoplancton arrive plus tôt que le zooplancton et donc il n'est pas brouté. Donc il y a une quantité supérieure qui est produite et sa consommation est inférieure dans la colonne d'eau et donc il y a vraiment une grande quantité qui arrive à l'interface aux sédiments et on a déjà des conditions même à 600 mètres de fond qui ont changé complètement pour ces animaux sans parler des variations de température. Alors maintenant si on attend le changement de température on aura un deuxième effet qui va superposer à des effets de nutrition ou trophique. Ouais. Et l'Arctique, par exemple, montre chez les mollusques des choses assez alarmantes sur la possibilité qu'à l'eau de se stabiliser. C'est-à-dire l'arrivée d'eau douce a tendance à stabiliser la colonne d'eau. De l'eau plus légère, moins salée en surface, stabilise la colonne d'eau et change complètement la dynamique du phytoplancton, change les conditions de vie. Ouais. C'est vrai pour des bivalves qui sont mangés par les morses. Ouais, les morses mangent des mies, une espèce de bivalve qui vit en fichier dans le sédiment avec un petit bestiole qui va du Maroc jusqu'au pôle Nord qui s'appelle Yatela Arctica, un tout petit bivalve blanc magnifique, il mange ça. On attend une catastrophe pour ce morse puisque ces deux bivalves-là vont voir probablement arriver des espèces prédatrices ou des espèces concurrentes ou des maladies. Ouais, le changement climatique sur des mollusques, et c'est le cas des ormeaux en Bretagne,
c'est toute une chaîne,
y compris des pathogènes qui se mettent à se développer, des vibrios, c'est le cas vraiment des ormeaux en Bretagne ou dans le sud de la France, qui ont tendance à disparaître du fait d'un vibrio RVI qui, à partir de 17 degrés, tue ces animaux, se développe et tue ces animaux.
Allez, on y revient dans un instant. Dossier mollusque aujourd'hui dans la Terre au Carré.
Put your rebels on, baby, giddy up. Baby, won't you dance, baby, get away. Dreamy nights, talk to me with that whiskey breath. Tour me twice, treat you like a holiday. And don't say you're over me when we both know that you ain't. Don't say you're over me, baby, it's already too late. Just do what you do best with me. Dance me all around the room. Spin me like a ballerina super high. Dance me all around the moon. Light me up like the 4th of July. Once,
twice, three times the guy I ever thought I would meet. So don't say you're over me when we both know that you lie. If you lie down, lie next to me, dance me all around the room, spin me like a ballerina super high. Me all around the moon, like six times till I'm sick and I cry. Once, twice, three times the guy I ever thought I would meet. So don't say you're over me when they all know that you're lying. If you lie down, lie next to me.
La voix de Lana Del Rey sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Sur le fond de l'Hérault, de drôles de formes percent la vase. Il s'agit d'une moule géante pouvant peser jusqu'à 1 kg. Pour comprendre cette colonisation, direction l'Audève. C'est ici que travaille Vincent Prier. Depuis plusieurs années, ce biologiste du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris étudie la propagation de l'anodonte chinoise, le nom scientifique de la moule géante.
Donc là, c'est le lieu d'introduction en Camargue dans les années 82, a priori, dans les temps de la gravière. Elle émet énormément de ces larves qui sont des parasites pour les poissons, et surtout, elle les émet très tôt en saison. Donc les poissons ont tendance à s'immuniser contre ces parasites, à devenir résistants, et donc il y en a quelques-uns qui arrivent quand même à se reproduire, mais statistiquement, s'il y en a plus que 2% qui y arrivent, sur ces 2%, ça va être essentiellement l'anodonte chinoise, qui émet plus tôt et beaucoup plus.
30 ans après son arrivée accidentelle en France, la moule géante est en passe de remplacer les mollusques autochtones, sans que l'on connaisse encore le prix de cette révolution pour la biodiversité.
Reportage de France 3 Occitanie en février 2019 pour parler donc des mollusques, avec par exemple aussi ce problème de menace hein, lié à ces espèces invasives, Laurent Chauveau.
Ah oui,
on prend ça très au sérieux ou
là,
pas?
C'est très très sérieux et c'est planétaire. Non, on parle du changement climatique qui est un des changements globaux. Dans les changements globaux figurent les invasions et les déplacements d'espèces. En milieu marin, tout le monde sait que les eaux de ballast et l'ostréiculture véhiculent des espèces d'un continent à l'autre. Et de façon générale, les invasions, c'est vrai sur les côtes américaines, vrai sur les côtes françaises. On a eu jusqu'à 2 millions de tonnes d'un petit escargot qui arrivait de Virginie, qui était la crépidule, et avec des effets sur le cycle de la matière, le cycle du carbone, le cycle du silicium, le cycle de l'azote, et une nouvelle fois, des animaux qui ont la possibilité, puisqu'ils sont à l'interface aux sédiments, ce sont souvent les animaux filtreurs. Ils ont la capacité de changer la nature du sédiment, changer, homogénéiser les fonds, changer les règles de la biodiversité, changer les règles du cycle du carbone, y compris produire du CO2 pour l'atmosphère.
Charlotte Carrier-Bello, vous qui justement étudiez les moules bleues au Québec, est-ce que vous avez aussi des menaces qui pèsent sur ces animaux?
Oui, on a différentes espèces, tant en eau douce qu'en eau salée. La moule bleue, c'est une être de sanité assez important. En eau douce, on a la moule zébrée, qui est une espèce envahissante qui est très importante, qui a colonisé beaucoup, beaucoup d'environnements, soit côtiers, même un peu plus profonds. Puis, effectivement, en milieu marin, on a beaucoup d'espèces, pas nécessairement bivalves, mais qui rentrent tout de même en compétition pour l'espace, pour les ressources, qui peuvent agir en tant que prédateurs aussi sur la moule bleue.
Laurent Chauveau, parce que Camille s'impatiente.
Mais
oui.
Vous m'avez vendu du rêve dans le sommaire.
Sur le mystère qui entoure la forme des coquilles de mollusques. Donc, oui. Ces travaux d'une équipe donc, de l'Institut de mathématiques d'Oxford et du laboratoire de géologie de Lyon. Qu'est-ce qu'ils ont révélé exactement qu'on ne savait pas sur la forme en hélico-spirale, c'est ça?
C'est ça. Je trouve que c'est la deuxième ou la troisième fois que ces gens font des sauts quantiques dans la connaissance de la forme des mollusques en général. Ils avaient résolu l'énigme qui permet d'expliquer pourquoi les deux valves d'un bivalve s'ajustent parfaitement, alors que au moment de la sécrétion, les deux parties du manteau ne peuvent pas communiquer, ils sont pas en contact l'un avec l'autre. Bon. Ils avaient fait cette étape-là. Là, on a quelque chose qui est une question qui doit dater de 2 siècles. Et on passe par, moi je suis pas spécialiste de ça, mais dans mes études arrivées, quelqu'un qui s'appelait Darcy Thompson, qui a écrit un livre qui est peut-être la référence de la littérature scientifique dans la qualité de l'écriture et dans les problèmes posés, sur la forme et la croissance en général. Il s'interrogeait, c'était un Écossais qui en 1917, en pleine guerre, écrit un bouquin qui doit faire 500 pages sur la croissance et la forme. Et il dit, déjà, Darcy Thompson dit en 1917, les histoires de forme sont des problèmes de mathématiques et il faut le résoudre par les mathématiques. Et ça, c'est, en 1917, c'est pas rien, c'est ce qu'on a, c'est notre sujet aujourd'hui.
Oxford, ouais.
Et il dit que la croissance est forcément un problème de physique, ouais, et que c'est des contraintes physiques qui permettent d'expliquer la forme. Alors, c'est pas dit comme ça, c'est évidemment beaucoup plus abouti dans la publication dont on est en train de parler, mais l'idée, c'est que vous savez que chez les gastéropodes, chez tous les escargots, il y a un phénomène qui est très étonnant, c'est que la larve subit une torsion à 180 degrés. Donc, au moment de son développement, l'animal brutalement se trouve tordu à 180 degrés.
Et on
ne sait pas pourquoi. Et on a une asymétrie qui apparaît. Et cette asymétrie était supposée comme pouvant expliquer pourquoi ensuite l'animal ne peut que suivre cette asymétrie dans sa croissance. La croissance des mollusques, je le répète, est fabriquée et assurée par une accrétion à la périphérie. C'est-à-dire que c'est le bord de la coquille qui va grandir. Ouais. Et là, l'astuce est trouvée, et l'explication vient du fait que c'est l'asymétrie des muscles, et en arrière de cette construction à la marge, ouais, c'est ce qui se passe à l'arrière qui permet d'expliquer pourquoi l'animal est obligé de se tordre et d'assurer
l'enroulement
en hélico-spirale.
Ouais. Et donc ça y est, on a enfin la réponse, c'est
et
ça
la réponse.
Depuis
2 siècles,
on se posait la question.
Ouais. Ça intéresse la communauté des gens qui veulent mettre des mathématiques et comprendre à quel
mais
point.
Attendez, la réponse du coup, c'est qu'il store à 180 degrés quand il
y a une asymétrie dans son corps. La partie du tissu mou va obliger le tissu dur, le squelette, à être déformé. Et en fait, c'est pas l'inverse. C'est vraiment pas à la périphérie de cet animal que le squelette déjà tordu conduit à sa déformation. C'est bien ce qui se passe derrière lui, la structure musculaire de cet animal, légèrement asymétrique, oblige tout l'animal à se tordre.
Et à quel moment du développement du mollusque est-ce que ça se fait?
Ça commence dès la métamorphose.
Ouais. Donc c'est vraiment dans les premiers instants, quoi.
Oui.
Ouais.
Mais on ne sait pas pourquoi, donc il reste quand même...
En amont, on ne sait pas pourquoi, et on arrive à expliquer la logique de cette déformation qui n'a pas grand-chose à voir avec... on explique des variations de forme et des variations entre espèces qui sont finalement des variations liées à de la physique, à de l'élasticité de tissu, et à vraiment à des contraintes physiques.
Donc c'est hyper complexe quand même.
C'est super complexe.
Et il faut des bons algorithmes pour arriver à répondre à cette question.
Je trouve que c'est vraiment magique, là. Cette publication est magique.
Et la coquille Saint-Jacques, du coup, c'est pas par rapport à la publication, mais je pose quand même la question, est-ce qu'on sait pourquoi elle a cette forme-là ou pas?
Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on arrive bien aujourd'hui à dessiner en équation des coquilles Saint-Jacques. On arrive bien à... Les mathématiques nous permettent de dessiner une coquille Saint-Jacques. Expliquer pourquoi elle ne subit pas de torsion, vous la voyez pas se tordre. Il y a pas mal de bivalves qui réussissent à avoir une asymétrie droite-gauche et qui se tordent légèrement. Pas la coquille Saint-Jacques. La raison pour laquelle elle le fait pas, on peut le mettre en équation. On n'a pas la raison physique. D'accord, sous-jacente à ça.
Bon, c'est un joli problème de science, en tout cas.
C'est un joli problème, et puis la forme est considérée depuis toujours comme quelque chose qui permet de définir des espèces. Vous voyez, forme, couleur. Ouais. Et donc, c'est pas juste un exercice de style. On va avec des histoires d'évolution derrière. Bon.
C'est ça. Charlotte Carrier-Bello, quels sont les types de stresseurs? C'est le mot, je crois, que vous employez, des stresseurs environnementaux que vous étudiez justement sur cette moule bleue du Québec, là, exactement.
Oui, on s'est concentré sur différents stresseurs, soit d'origine anthropique, donc directement reliés aux activités humaines, donc à échelle beaucoup plus locale, mais aussi dans un contexte d'activité ou de changements globaux. Parce que bien entendu, ce qui est intéressant parfois, c'est d'être capable de tirer certaines conclusions, puis d'être capable de fournir certaines pistes de solutions pour la conservation ou la gestion des espèces. Par contre, c'est assez difficile d'agir sur l'acidification ou les changements de température ou sur les changements beaucoup plus globaux. Par contre, c'est un petit peu plus possible, du moins si on a la volonté, d'agir sur les stresseurs qu'on va appeler beaucoup plus locaux. là, par stresseur, ce qu'on entend, en fait, c'est une variable environnementale qui est présente de manière naturelle dans les environnements, mais qui va varier au-delà de sa variabilité naturelle, puis qui va varier aussi au-delà des seuils de tolérance des espèces. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on va parler d'un stresseur.
Ouais. Et ça agit comment alors sur les animaux, alors sur leur comportement ou sur leur coquille, tous ces stresseurs-là?
Mais c'est ça la complexité derrière tout ça, c'est que chacun des stresseurs qui nous intéresse, donc dans mon cas, je m'intéresse aux variations de salinité, donc on est dans un estuaire, on a une variation de salinité qui est naturelle, mais aussi une variation de salinité qui est accentuée par nos rejets d'égouts, nos rejets d'eau usée, par les déplacements de grands fronts salins. Donc ça, on a un qui nous intéresse. On a un enrichissement en nutriments côtiers qui est très, très important dans le Saint-Laurent dû à nos activités agricoles notamment. Puis on a bien entendu des changements de température, des changements au niveau de la circulation des eaux profondes. Donc tout ça, par contre, la problématique, c'est que tous ces stresseurs-là, de manière individuelle, vont avoir des effets très, très, très différents pour les espèces. Et ça va différer aussi selon l'espèce ou le niveau de complexité biologique qui nous intéresse.
Camille, quelques questions.
Ouais, Cathy demande ce que vous pensez des huîtres triploïdes modifiées chromosomiquement, voilà, j'arrivais pas à le dire, et de leur impact éventuel sur le reste des huîtres sauvages, Laurent Chauveau.
J'ai pas d'avis.
Ah.
Eh ben ça c'est une réponse. Voilà, on peut passer à la prochaine question. Merci de l'avoir posée.
Alors une question pour Charlotte Carrier-Bello, Thierry à nouveau qui nous explique qu'il y a 40 ans environ, il avait découvert dans un banc de sable d'une toute petite rivière du Piémont pyrénéen un mollusque qui ressemblait à une grosse moule de la taille d'une main d'adulte. Il a jamais su ce que c'était. Est-ce que vous pouvez l'éclairer ou pas du tout?
Très bonne question. Je pense que je vais laisser M. Chauveau répondre à celle-ci. Ça peut être différentes espèces, mais peut-être que Laurent en connaît très
bien. Une moule dans le Piémont, c'est ça? Ça peut être
un mollusque qui ressemblait à une grosse moule.
Oui, c'est une anodonte. Il y a plusieurs espèces d'anodontes, dont une qui est vraiment gigantesque, qui doit faire 20 cm de longueur, qui rentre comme ma main.
Donc c'est pas normal d'en trouver là?
Non, pas du tout. Non, moi j'ai trouvé des anodontes. Si vous amenez depuis la Bretagne une combinaison de plongée, vous plongez dans les Alpes à 2000 mètres d'altitude, vous avez au fond de ces lacs des moules.
D'accord.
Eh bien, on plongera avec vous avec beaucoup de plaisir, mais pour l'instant, nous partons en Italie, justement, Lily Cube.
Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins, dans ton automobile. Tous les deux on sera bien. Et dans le ciel il y aura des étoiles et du soleil quand on mettra les voiles. S'en aller tous les deux dans le sud de l'Italie. Et voir la vie en bleu, tout jouer sur un pari. C'est le Calypso, dans un dancing avec vue sur l'Arno. Au milieu de la nuit, un catinini, et va la nave et va la douce vie. On s'en ira toute la vie, danser le Calypso en Italie. Et voir à la grecque ton main dans le trompant, du Grand Paris quand Paris est à l'eau. S'en aller au matin, boire un dernier martini, et
Ah, ça fait plaisir de les réentendre. Lily Kubek, voyage en Italie sur France Inter dans cette Terre au Carré consacrée aux mollusques, aux bivalves en particulier, avec nos invités Laurent Chevaux à Paris et Charlotte Carrier-Bello depuis le Québec. Alors, vous avez plongé, donc vous le disiez tout à l'heure, des micros sous l'eau pour essayer d'entendre. C'était quoi d'ailleurs, des coquilles Saint-Jacques que vous avez?
Alors, au début, les coquilles Saint-Jacques, toujours, vous allez me dire, c'est obsessionnel. Laurent Chevaux, il s'occupe que des coquilles Saint-Jacques. Ouais. Mais moi, j'étais très intéressé par le fait que les coquilles Saint-Jacques, en bougeant, fait du bruit. Et qu'on puisse utiliser le bruit que fait une coquille Saint-Jacques comme un système d'alerte, comme les oies du Capitole, comme le chien qui aboie. Et qu'on ait des systèmes de surveillance ou d'alerte utilisant le bruit que font les coquilles Saint-Jacques. Et on s'est aperçu qu'en rade de Brest, quand on mettait un micro dans l'eau, ben vous entendez des bateaux qui passent, vous entendez des vagues, et puis vous entendez des crevettes, vous entendez les homards, les oursins, et que finalement il y a un chorus d'animaux, surtout d'invertébrés, qui font du bruit. Et ça, ça a commencé à nous interroger en Bretagne, puis en milieu polaire, et on s'est retrouvé avec une banque de sons polaires, de glace et de manchots et de baleines, ce que vous avez déjà entendu, mais aussi d'invertébrés. Et les plongées sous la glace, vous avez ici reçu Laurent Balesta, et vous avez des témoignages de plongeurs sous la glace. Quand vous revenez ici, ensuite en métropole, après ces plongées sous la glace, vous avez une difficulté, c'est d'exprimer la beauté et la poésie de la plongée polaire. Et il était tentant de s'associer à des artistes pour parler de la beauté de la catastrophe des milieux polaires.
Et c'est ce que vous avez fait avec François Joncourt, par exemple. C'est ce qu'on entend là, en ce moment, sous nos voix.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez fait comme boulot?
Et finalement, on a donné ces sons à des artistes, demandé à ces artistes de... Enfin, pas de... Il y avait carte blanche, on a demandé simplement de transformer des sons, les transformer en musique et de parler de la beauté de la catastrophe, des changements climatiques et des changements de conditions écologiques en milieu polaire. Et c'est ce que fait François Joncourt, c'est ce que fait l'exposition Arctic Blues à Rennes. On essaye d'exposer au grand public, pas sous un angle scientifique, mais sous un angle émotionnel, comment on est en train de bousiller le pôle Nord et le pôle Sud.
François Joncourt s'appelle Pulling Underwater.
C'est un album qui est sorti. Avec
inspiré directement donc des mollusques.
Et de résidences d'artistes. Il n'est pas tout seul. Il y a Vincent Malassi, Maxime D'Angle, il y a des photographes, des peintres. Ouais, on a plusieurs, des vidéastes qui... On essaye ce mélange art et science pour éviter ce dont vous avez parlé tout à l'heure, cette espèce d'anxiété qui apparaît dans le public quand on parle de changement climatique et d'un océan en train de changer.
Et donc cette exposition, à partir du 18 décembre à Rennes, Arctic Blues, vous aurez jusqu'au 24 avril 2022. Pour y aller.
Peu de nombreux.
Pur, que dit la nature? Épisode 40.
Comme tous les mercredis, on termine avec de la nature et les sons de la nature avec le podcast et vodcast de France Télévisions avec lequel nous sommes partenaires. Et là aussi, on va s'immerger, Laurent Chevaux, dans un milieu de la planète, peut-être aquatique, enfin là, apparemment non, et vous allez devoir en deviner l'origine et le contexte. C'est Fernand Duroussen, audio naturaliste, qui a fait l'enregistrement. Donc écoutez bien et essayez de deviner où nous sommes. Vous avez une idée, Laurent Chevaux?
Une mangrove.
Ça vous raconte quelque chose, là, ce qu'on entend, ou pas?
Non.
Non. Camille qui nous spolie à chaque fois le...
Mais je n'ai pas la réponse, je précise, mais j'ai cru. J'ai vu un hippopotame,
le
comme
gros
ça.
Gros plouf, là.
Voilà.
Non, il dit, hein, Laurent Chevaux, non. Ça pourrait être quoi, ça, à votre avis? Vous l'avez pas entendu, ça, dans vos micros?
Non. Ah, je suis désolé, je mets ça, la banquise en Antarctique, il n'y a pas son là, c'est sûr.
Ah, ouais. Bon, mais si vous souhaitez le savoir, vous allez sur le site de France Télévisions, podcast et vodcast pur Que dit la nature, et vous aurez la réponse.
Magnifique.
Comme toutes les semaines, c'est en partenariat avec La Terre au Carré.